If my life was a movie, no one would believe it. I started out as a bodybuilder from Austria and became the strongest and most muscular man in the world.
C'est un peu salut les musclés ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de lycéens, de résistance, de milices, de compétition, de culturisme et même de tatouage avec Marina Foïs à l'affiche de Bodybuilder de Roche Dizem, un film qui infiltre le monde du culturisme au programme Obsession et spectacle du corps, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'une comédienne qui a joué à la fois au cinéma dans La Tour Montparnasse Infernale et au théâtre dans La Tour de la Défense de Copie.
19h30, place nette pour Xavier Delaporte qui met ce soir la politique au programme de sa chronique Place de la Toile, et puis plateau documentaire avec Claude Ventura qui signe Les Garçons de Rollin ou comment filmer la jeunesse sous l'occupation en France à partir des photos de classe du lycée Rollin à Paris, Benoît Lagane.
Et l'occasion pour le documentariste de repenser l'enquête historique et le film d'archives en place en caméra en lieu et place de l'œil de l'archiviste.
Mais d'abord c'est l'actualité culturelle avec le nouveau journal de la culture de Zoé Sfez. Mais jusqu'à quand ?
Rapprochez-vous, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Bonsoir. Nous sommes vraiment très tristes de vous annoncer que la compagnie de Vincent Macken, en accord avec le Théâtre de la Ville et le Vidil Lausanne, que la représentation de ce soir n'aura pas lieu.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'était votre son du jour, ou plutôt votre son du soir d'hier.
Le son du soir d'hier soir, L'Idiot, la pièce de Vincent Macken, a été annulée au dernier moment car la moitié de l'équipe, en fait la majorité, souhaitait suivre le mouvement de grève des intermittents du spectacle. Trois autres pièces du Festival d'automne à Paris ont aussi été annulées. But de cette journée de mobilisation pour les intermittents, c'était de faire pression sur la première assemblée plénière de la concertation missionnée par le gouvernement. Elle avait lieu aujourd'hui et ça a plutôt bien fonctionné puisque les intermittents ont obtenu une partie de ce qu'il demandait. La concertation va en effet se pencher sur l'architecture globale du régime et leurs contre-propositions vont être chiffrées par des experts indépendants comme ils le demandaient depuis 3 mois.
Et on passe au dossier du jour. Les musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France ont confirmé leur préavis de grève pour leur concert de vendredi qui devait avoir lieu salle Pleyel. Ils indiquent vouloir protester contre les méthodes brutales de la nouvelle direction de la musique de Radio France et l'éviction de leur directeur artistique, Éric Montalbetti. Un dossier explosif, Zoé.
Oui, alors déjà, il faut rappeler une chose. Radio France, et c'est unique au monde, dispose de 2 orchestres, l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui au départ avaient tous les deux des missions assez différentes au national, le grand répertoire, les grands chefs, la représentation nationale finalement, et au Philhar, comme on le surnomme, la musique contemporaine, la création, etc. Mais progressivement, le niveau du philharmonique, comme on l'appelle, est monté. Aujourd'hui, c'est un orchestre excellent, il attire les plus grands chefs, grâce notamment à des directeurs musicaux qui ont été très engagés, Marek Janowski, puis Myung Moon Chung, mais grâce aussi à Éric Montalbetti, ce fameux directeur artistique qu'il était depuis 18 ans. Or, la nouvelle direction de la musique l'a poussé à la démission, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Comme l'explique Jean-Paul Quenesson, il est corniste, lui, au national, mais il est délégué syndicaux de tous les musiciens de Radio France.
Ce qui motive les grévistes, c'est le fait que les musiciens de l'orchestre philharmonique voient comme une atteinte insupportable le fait qu'on ait poussé à la démission leur responsable artistique, qui est celui qui, depuis plus d'une quinzaine d'années, les a mis là où ils sont, c'est-à-dire à un très, très haut niveau de renommée tant nationale qu'internationale. Ça a été un travail avec beaucoup de chefs, beaucoup de compositeurs, et ils ont le sentiment fort légitime que, eh bien, on décide de mettre un peu les bâtons dans les roues à cette grande et belle dynamique, et avec derrière un projet de réforme du fonctionnement des formations permanentes, donc des 2 orchestres et du chœur, avec, on a cru comprendre, une volonté de mutualiser les moyens.
Il faut rappeler que l'arrivée du nouveau PDG de Radio France, Mathieu Gallet, a plutôt bousculé les choses.
En effet, Mathieu Gallet avait défendu dans sa candidature devant le CSA, ce qui l'a fait gagner un peu, un projet de réforme de la direction de la musique. Car il faut le dire, ces 2 formations, elles se font presque parfois un peu concurrence. Et parfois même, c'est assez rare, mais il existe des doublons, ils peuvent programmer la même chose à 2 jours d'écart. Depuis toujours, en fait, la crainte ultime, c'est qu'à terme, on veuille fusionner les 2 orchestres. Mathieu Gallet, qui lui se dit très mélomane, a prévenu que pour lui, c'était absolument pas ce qu'il fallait faire, mais il a quand même évoqué la création d'une direction de la musique
unique pour les deux orchestres. Il a donc nommé un nouveau directeur musical, directeur de la musique, pardon, Jean-Pierre Rousseau, qui venait pour porter un peu ce projet. Mais la perspective d'une mutualisation effraie beaucoup, y compris les chefs. En premier lieu, le futur directeur musical du Philharmonique, Mikko Franck. Dans un communiqué publié hier, il écrit « Je suis heureux que la question abordée ne soit pas celle de la fusion des orchestres, mais malheureusement, la mutualisation des administrations me paraît très préoccupante. » Alors, face au tollé, il semble que la position de Jean-Pierre Rousseau est un peu évoluée. Aujourd'hui, il garantit que le poste directeur artistique seront maintenus et il se défend absolument de vouloir créer un pôle unique, comme le prévoyait à l'origine le projet de Mathieu Gallet. Écoutez-le.
Ça serait la pire des solutions. Donc, il n'y a pas de pôle unique, il n'y a pas une espèce de comité central qui décide à la place des orchestres. Il y a la volonté, au contraire, de redonner à chaque formation une fierté, une identité, une vision, et pour le directeur de la musique, de mettre tout ce monde en mouvement dans une coordination et dans une harmonie qui, pour l'instant, fait défaut. Parce qu'il faut quand même dire ça pour l'instant. C'est que jusqu'à maintenant, chacun programmait, faisait sa programmation, avec parfois des chocs assez incroyables, des concerts pratiquement simultanés, etc. Est-ce qu'on veut continuer là-dedans ? Tout le monde dit que ça ne va pas. Alors moi, j'essaie de changer ça. On va quand même pas dire que le passé était tellement merveilleux qu'il ne faut rien y changer.
De leur côté, les musiciens se disent prêts pour plus de coordination.
Oui, tout à fait. Le musicien Jean-Paul Quenson reconnaît la nécessité de coordonner, mais dénonce en fait l'absence de projet de Jean-Pierre Rousseau.
Parfois, il peut y avoir des zones de recouvrement, des zones de conflit. Il doit y avoir des arbitrages. Je pense que c'est le boulot, c'est le travail du directeur de la musique d'être dans cette coordination. Et je crois que garder des structures avec une forme de verticalité, avec des responsables dédiés à chaque formation, le tout dans un cadre coordonné, harmonisé, est la réponse adaptée. Et là, il y a eu beaucoup de brutalité et surtout pour ne pas proposer de projet alternatif.
Car la direction de la musique n'a toujours pas dévoilé son projet.
C'est ce qu'on lui reproche en fait, un peu d'avoir mis la charrue avant les bœufs, en se séparant d'un homme assez efficace, Éric Montalbetti, sans avoir de feuille de route alternative. Mais Jean-Pierre Rousseau indique que s'il prend son temps, c'est pour que le projet soit le plus partagé possible.
Le projet, il va être mis en consultation pendant les quelques semaines qui viennent, équipe par équipe, à chacun de s'emparer de ce projet, de le nourrir, de le transformer, de l'améliorer. Parce que je veux qu'à terme, ce soit un projet partagé. Et qu'on se rende compte que ce projet améliore le fonctionnement de nos formations et de la musique en général à Radio France. Je n'impose rien, je propose. Et vous savez, tous les entretiens que j'ai en ce moment avec les uns et les autres me montrent qu'il y a une volonté, une envie de ça, une envie de changement. Mais comme je ne veux pas imposer un projet tout ficelé, alors on me dit « vous êtes flou ». Ben non, je ne suis pas flou. J'avance, je consulte, je discute, j'écoute. Et puis, je veux qu'ensuite, ce soit un projet partagé.
Voilà, donc vous l'entendez, les négociations sont en cours. Demain, l'Orchestre Philharmonique de Radio France doit tenir une assemblée générale pour confirmer son préavis de grève et pour décider de potentielles futures actions. On en reparlera évidemment dans le journal de la culture.
Tout de suite, les brèves.
Et l'on ouvre avec la mort du batteur de jazz Jack Tolo, l'une des figures du free jazz en France à l'âge de 67 ans. Il a notamment joué avec François Janot, Sigrid Kessler, Jenny Clark ou Jean-Paul Celéa. Il avait fait un retour remarqué sur le devant de la scène en 96 avec son album Tenganinha, salué par la critique.
Le ministre du Travail, François Rebsamen, malmené par les intermittents.
Alors qu'il visitait le salon de l'emploi hier, trois intermittents qui scandaient leur slogan « Rebsamen à rien » l'ont aspergé d'eau avant d'être saisi par les forces de sécurité. Le ministre trompé a dû être exfiltré du salon.
Ça vous a fait rire,
madame? Oh, mais le jeu de mots, il est trop pourri.
Mais quelquefois, c'est pas mal.
On est censé être des intermittents de la culture.
Ça mène à rien. Marche arrière de Fleur Pellerin sur Netflix.
La ministre de la Culture avait laissé entendre eh bien, qu'elle ne ferait pas grand-chose contre la décision de Netflix de s'installer en Hollande et au Luxembourg pour des raisons fiscales. Eh bien, aujourd'hui, elle demande au groupe de s'installer en France pour qu'il n'y ait pas de différence entre les concurrents sur le marché de la SVOD.
Et la dernière ?
C'est une histoire de fans à la fois très sage et très folle. Vous savez, les fans, parfois, ils sont prêts à tout pour rendre hommage à leur idole, de manière spectaculaire, pathétique parfois. Et bien là, c'est très subtil. Les fans en question sont deux scientifiques de l'Institut suédois Karolinska, l'un des plus prestigieux du pays, fans depuis leur prime adolescence de Bob Dylan. Ces deux hommes se sont lancés le défi, et oui, de caser le plus possible de paroles de Dylan dans leurs publications scientifiques. A priori, ça semble assez impossible quand on sait qu'ils sont spécialisés dans la cardiologie biologie moléculaire et dans la gastro-entérologie. Et pourtant, ils y arrivent, et ce, depuis 17 ans. Et oui, ainsi cet article est intitulé « Nitric Oxide and Inflammation, the answer is blowing in the wind ». C'est-à-dire en français, acide nitrique et inflammation, la réponse souffle dans le vent. Ou encore, le rôle biologique du nitrate et de la nitrite, the times are changing, c'est-à-dire les temps changent. Alors absurde, vous me direz, incroyable qu'une revue ait accepté ce type de titre. Pas du tout, selon l'un des parieurs. On a toujours mis un point d'honneur à ce que la citation soit liée au contenu scientifique, qu'elle augmente la qualité de l'article en tant que tel, et pas le contraire. C'est finalement le bibliothécaire de l'Institut qui a fini par se rendre compte de cet hommage un peu caché. Depuis, 4 autres chercheurs de l'Institut sont aussi rentrés dans le jeu. Don't put my faith in nobody, not even in scientists. Je ne prête foi à personne, même pas aux scientifiques, avait écrit Bob Dylan, et il avait bien raison.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Moi, je suis fan de Sheila depuis l'enfance, donc il faudrait que dans chaque émission, je puisse en placer. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce que l'on vient d'entendre ? Peut-être la mort de ce jazzman, Claude Ventura ?
Oui. Ben c'était. Je me souviens de ses photos, ça m'avait frappé. Il avait un visage d'ange, quoi. Voilà. Maintenant, le free jazz, c'était pas trop mon truc. J'étais plus.
Plus quoi ?
Bop. Ou alors le rock, mais. Enfin, il était très beau et toutes les photos de lui le montraient bien. Quoi.
Sur les intermittents, peut-être ? Marina Foïs ?
Ouais, je crois que c'est vraiment une profession mal connue, c'est-à-dire qu'il y a un malentendu. Les gens connaissent les vedettes. Ils ont entendu parler de leur salaire faramineux et de leur pouvoir inconsidéré. Ils connaissent mal la réalité de l'intermittent. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu notre responsabilité à nous tous qui avons la parole. Donc je suis la première responsable à ne pas le faire. Je ne comprends pas pourquoi on n'expliquerait pas mieux que... À quel point un intermittent n'est pas un feignant, un acteur ne peut pas jouer 365 jours par an. C'est même pas physique, c'est une question de la qualité de son travail, c'est une question que ça n'est pas cette réalité-là, que donc et que on devrait être content que l'État, le gouvernement prenne en charge la culture, le superflu, si on ne vit que de nécessaire. On en crèvera tous, même ceux qui sont dans d'autres domaines, qu'on a besoin de tout le monde et que la solidarité n'est pas une valeur qui doit se perdre. Enfin, un mélange de tout ça, il y aurait beaucoup à dire. L'intermittent n'est pas un feignant. Voilà.
Le rendez-vous.
Soit tu ouvres la porte, on s'explique gentiment, soit je la défonce, t'as compris ?
Attends, je m'habille.
C'est dans le lycée où je bosse, il y a une psy qui vient tous les jeudis. Si tu veux la rencontrer.
Comme ça, je pourrais lui raconter que mon père était jamais là quand j'étais gosse, que j'ai manqué de repères.
J'aurais voulu être plus proche de toi.
Là, tu te planques ?
Je me planque pas.
Tu crèches où ?
Mon père.
T'es un père maintenant ? Il dépense tout pour sa prépa. Tu sais combien ça coûte ces produits ?
Je vais même prêter 800 euros sur mes économies. T'imagines quoi ? C'est pas Roland Garros.
Plateau Muscu avec vous, Marina Foïs, comédienne au théâtre comme au cinéma. Et c'est là qu'on vous retrouve dans Bodybuilder, le nouveau film de Roche Dizem, dont on vient d'entendre une très rapide évocation. C'est l'histoire d'Antoine, il a 20 ans, joué par Vincent Rothiers, qui s'est mis à dos une petite bande de délinquants à qui il doit de l'argent. Il doit alors s'enfuir et se réfugier chez son père, à Saint-Étienne, un père qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et là, il découvre un père qui est propriétaire d'une salle de sport. C'est le culturiste Yolin François Gauvin qui joue ce rôle. Il s'entraîne pour une compétition sous le regard patient, très patient de sa compagne, c'est vous, Léa. Le culturisme, c'est un monde que vous avez découvert à l'occasion du film, j'imagine ?
Oui, absolument. Ouais, je n'en connaissais que les clichés, comme vous, quoi. J'avais évidemment vu des photos de... Non, mais comme vous, comme nous tous.
Oui, quoi. Oui,
Je connaissais des messieurs dorés. J'en avais vu huilés, dorés, musclés, avec des tout petits slips. Mais je ne connaissais pas... Je connaissais mal ce qui habite ces gens-là. Leur quête, qui est au fond est très personnelle et très intime, et pas si dénuée de sens que ça. Ils sont très pénalisés dans l'image qu'on a d'eux parce qu'il y a quelque chose de très folklore, un peu cheap dans tout ce qui nous parvient, dans l'imagerie. Alors qu'au fond, c'est des gens qui mettent du rêve et un but dans leur vie, comme on fait un peu tous, quoi.
J'imagine que Yolin François Gauvin vous a parlé de sa passion. Qu'est-ce qu'il vous en a dit ? Qu'est-ce qu'il a voulu vous faire partager de cela ?
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, ils vivent en marge, forcément, puisque leur passion est très peu partagée. Ils sont très peu. C'est un sport de riches pratiqué par des pauvres. C'est vraiment. Et donc, ils sont exclus et ils le vivent comme ça. Et par exemple, François Yolin Gauvin, on a fait de la promo là, il n'arrête pas de dire « Ah, c'est merveilleux, les acteurs m'ont accepté ». Ce mot, pour moi, il résonne très fort, parce que d'abord, d'où on n'accepterait pas. Enfin, je veux dire, mais ça raconte le mépris ou l'indifférence qu'ils subissent. Ça, c'est un des trucs qui m'a le plus fasciné. Puis, au fond, je dis, ils parlent. Dans ce film-là, c'est un peu une métaphore sur une métaphore. Hein,
ou une métaphore. Hein, oh, c'est pas vrai.
Ah, c'est bien. Hein. Moi aussi,
rappelle
je fais des
les titres, ça ne marche pas. Mais un métaphore.
Non, mais moi, c'est pas la faute de français, c'est la compréhension.
D'accord.
Alors qu'un métaphore, on comprend très bien. Donc, Roche disait, m'a fait un métaphore sur la différence et l'exclusion. Voilà.
Très bien. Justement, Roche disait, m'a vu des documentaires. Un précisément, est-ce qu'il vous a fait partager ce documentaire et qu'est-ce qu'il vous en a dit en fait?
Oui, il m'en a montré plusieurs. Un qui a directement inspiré le film, qui est l'histoire d'un père qui va aussi oh là là, mais je mélange tous les mots.
Donc, un fils
qui va redécouvrir son père, qui est culturiste, tout ça. Mais moi, il y a un documentaire américain. Le truc qui m'a le plus intéressé, c'est un psy qui a travaillé sur les bodybuilders et qui raconte qu'au fond, c'est des gens qui, à un moment de leur vie, se sont sentis faibles, que ce soit physiquement ou mentalement pas très puissants, et qui se lancent dans cette discipline, sauf qu'en fait, ils souffrent de dysmorphophobie, comme les anorexiques. Ils se voient absolument pas tels qu'ils sont. Donc, ils poursuivent une espèce de quête. C'est pour ça qu'ils atteignent des volumes qui sont... Mais il n'y a plus de t-shirt à leur taille. Il n'y a plus de jeans. Non, mais c'est vrai.
Ah ouais.
Et sauf qu'ils sont complètement... Ils ne se voient pas tels qu'ils sont. Leur quête, elle est vaine, elle est absurde. Mais elle est la leur. Et je trouvais ça... parce que l'anorexie, par exemple, c'est un truc... c'est à nous les femmes plutôt. Voilà, c'est un aspect de l'homme fragile qu'on raconte. Enfin, je trouve que c'est un travers intéressant.
Le seul vêtement qui leur va toujours, c'est le string en fait.
Mais le string.
Il est toujours à la même taille.
Bah, je pense pas. Alors, si on rentre dans le détail, je pense qu'il y a différentes tailles. Bah, monsieur, ça dépend.
Non, mais bien sûr.
De beaucoup de choses.
Lucille Comeau.
Alors, Yolin François Gauvin n'est pas un acteur professionnel, vous le disiez. Qu'est-ce que ça change au niveau, pour vous, de l'échange et du jeu? D'autant que vous avez des scènes assez physiques avec lui. Vous avez une scène où vous le rasez intégralement juste avant la compétition.
Je l'ai rasé, je l'ai doré, j'ai fait une tonne de trucs avec lui. Pour moi, ça change... Acteur. Le cinéma, c'est un endroit qui reste magique à un endroit, c'est que les gens peuvent vraiment arriver de partout et de nulle part. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est vraiment un endroit, me semble-t-il, où on se mélange encore un peu. Donc moi, je m'en fous des CV des gens. Ce qui m'intéresse avec quelqu'un comme Yolin, c'est que... en tout cas, ce qui ne m'intéresse pas chez les acteurs professionnels ou ce qui m'intéresse le moins, c'est l'expérience, le savoir-faire, la technique. Donc au moins, là, le problème ne se pose pas. Il a un regard neuf sur les choses et loin de la blaserie ou de l'embourgeoisement de certains. Donc pour moi, c'est une richesse d'avoir tout d'un coup à jouer avec ce mec-là. Et puis en plus, la rencontre entre deux acteurs, au fond, je pense que c'est très chimique. Ça ne s'explique pas. Il peut y avoir une connivence intellectuelle, mais il y a un truc qui ne se fait pas. Avec Yolin, ça a marché tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu du plaisir à jouer avec lui, comme j'en ai avec Rottier ou Duvauchel. Moi, je ne vois pas de différence. Ce qu'il y a en plus, c'est que lui, il découvre le cinéma et que c'est très exaltant d'assister à ça et de voir naître en lui l'enthousiasme que moi, je cultive depuis des années. Voilà.
Quand Roche disait, mais venu vous chercher, j'imagine que vous n'avez pas passé de casting. Il vous a dit pour quelle raison il vous avait choisi, vous, pour être la femme d'un culturiste?
Non, et j'ai pas posé la question, mais j'ai dit oui tout de suite. Le rôle, il me plaisait parce que, d'abord, je le trouvais très bien écrit parce que c'est une fille donc qui est très tatouée, très lookée, des micro-shorts, des clous partout,
des cheveux rouges,
voilà, et qui en même temps, elle est complètement invisible, elle est toujours en deuxième ligne, elle vit dans l'ombre. Donc ce paradoxe-là, pour moi, raconte quelqu'un très bien. C'est une part de mystère, on la comprend pas tout à fait, donc elle est intéressante. Et puis parce que je trouve que, comme pour le travail d'acteur, c'est intéressant d'exister sans avoir rien à faire. C'est-à-dire que...
Vous n'aviez rien à faire?
Ben non. Les scènes, c'est l'action, c'est lui. Les enjeux, les enjeux dramatiques, c'est lui qui les porte. Les scènes, c'est en vrai, c'est lui le centre de la scène. Mais moi, je dois être là et je dois exister sans avoir le problème d'exister ou pas. C'est vachement intéressant. Et comme je suis avec un metteur en scène qui a le bon regard au bon endroit, je trouve... Voilà, ça, c'était ma satisfaction personnelle.
Le choix des tatouages, c'est vous?
Ah non, c'est Rudy.
Même ce qui est écrit? Life goes on à droite.
Life goes on et surtout, happiness is a choice. Ce qui est hyper touchant.
À gauche.
Ouais, à gauche, là. Parce que c'est une phrase qui est très bateau. Et en même temps, moi, ça me touche que cette fille qui a une vie... qui ferait pas rêver grand monde, hein, qui a beaucoup de perspectives, qu'elle choisisse ça au lieu de se loin des gens qui se victimisent ou qui se plaignent ou qui chouinent ou qui machin. Elle, elle dit, bah, moi, je vais me dire tous les jours, happiness is a choice, et je vais chercher mon happiness à moi. C'est touchant.
Claude Ventura, peut-être des questions à Marina Foïs ? Vous écoutez très attentivement.
Non, moi j'aime bien les films, j'ai pas vu le film, mais j'aime bien les films qui mettent en scène un milieu particulier, un peu, je sais pas, un film de Nicolas Ray sur les rodéos ou des choses comme ça, et je trouve que à travers un truc qui a l'air étroit, qui a l'air de concerner pas trop de gens, on peut aller très très loin. Donc tel qu'en parle Marina, j'ai l'impression que c'est un peu ça.
Exactement. Et d'ailleurs moi quand non mais ça m'étonne pas, parce que moi quand j'ai eu un plaisir en lisant le scénario, et puis après en tournant le film, j'ai le même plaisir qu'en tant que spectatrice de documentaire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, et moi j'en regarde beaucoup de qualité ou même de la merde, ce qui ne mérite pas le nom de documentaire, mais tout ce qui rentre à la télé, tout ce qui rentre dans la vie, dans l'intime des gens, dans le détail. Et moi, ça m'intéresse. Le film raconte exactement ça, c'est-à-dire raconter quelqu'un par le tout petit. Pas par les grands moments, pas par les grands événements, pas par les grands sentiments non plus.
Pas tout dire et pas tout montrer.
Voilà.
D'autant plus que filmer ce milieu, c'est au fond filmer un spectacle, celui du corps. Ça rejoint aussi, j'imagine, le travail de l'acteur. Est-ce que vous y avez vu des points communs, en fait ?
Bah, les bodybuilders, ils se construisent une image et ils se réparent en réadaptant ce qu'ils sont à ce qu'ils voudraient être. Et si un acteur ne fait pas ça, je ne sais pas bien ce qu'il fait. Surtout aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, l'image a pris une place, mais en fait, j'en sais rien, parce que en tout cas, nous, on est très victime de ça, ou acteur de ça, je sais pas, mais les acteurs, les hommes, ils prennent du muscle entre leurs 20 ans et leurs 40 ans quand on devient acteur. Nous, les filles, on perd minimum 15 kilos, on se blanchit tous les dents, il n'y a pas de cheveux blancs, on fait ce qu'il faut, et puis après, il y a la chirurgie esthétique. Mais en tout cas, on agit. En tout cas, en France, je trouve que nous, les acteurs, même par rapport aux acteurs du cinéma anglais, on est très sophistiqués. On se construit un corps, une image, on se fringue, on se machin. Donc la démarche, elle est, je ne sais pas si on comble les mêmes trucs. La différence, c'est que nous, entre nous et le public, on a nos films. Donc on a des alibis culturels. Eux, ils ont que leur corps, ils sont leur outil, leur moyen de satisfaction, leur moyen de frustration. C'est très compliqué. Et puis, à part eux-mêmes, je ne vois pas qui peut bien comprendre le spectacle qu'ils offrent. Donc, c'est plus abscon. Nous, on peut partager plus ce truc-là. Mais il y a des points communs qui me semblent évidents.
Tous les jours, on demande à nos invités d'apporter un son qu'ils veulent entendre et qui les ont marqués. Vous avez choisi ceci, Marina Foïs.
Les 5 nominations pour la meilleure actrice sont... Brigitte Fossé pour Les Enfants du Placard, Isabelle Huppert pour La Dentelière, Miu Miu pour Dites-lui que je l'aime, Delphine Seyrig pour Repérage, Simone Signoret pour La Vie devant soi.
La gagnante est Simone Signoret pour La Vie devant soi.
Mais pourquoi ? Vous ne croyez pas en Dieu ?
Dieu, j'ai vu ce qu'il a fait à Auschwitz. Dieu, il a des yeux, il voit pas, il a des oreilles, il entend pas, il a une bouche et il parle pas. Quand il est trop tard pour qu'il vienne me demander pardon, parce que ce qui est fait, est fait. Ce qui me fait plus peur. Alors à mon enterrement, je veux pas de Dieu, je veux pas de rabbin, je veux rien. On n'aura qu'à me mettre sous un arbre. Je serai bien.
Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie, je trouve que j'ai bien fait de venir. Et je voudrais quand même dire une chose avant de m'en aller, c'est que je vais demander à César de me le bricoler un peu, parce que je voudrais bien le partager avec Moshe Mizrahi.
Identification de ce son, Marina Foïs.
En fait, c'est pas tout... Je suis très contente de réentendre Signoret, mais en fait, c'était pas tout à fait ce moment-là. C'est que j'ai vu un documentaire sur Signoret à la télé il y a quelques mois, où il montrait ça, elle prenait le César, et après, il y avait une longue interview d'elle avec sa gueule de l'époque, qui n'est plus du tout la gueule de Casque d'Or, et elle dit, mais moi, Je me suis détruite. J'assume, j'ai la gueule que j'ai parce que j'ai eu la vie que j'ai eue, mais j'aurais pas cette gueule, j'aurais pas les rôles que j'ai aujourd'hui. Et je trouvais que ça, justement, c'est très en décalage par rapport à nous, les actrices de notre... Je crois que quand elle a la vie devant soi, elle est pas tellement plus âgée que moi. Non, mais si, un peu, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est ouais. qu'aujourd'hui, en tout cas, les actrices de ma génération, et je ne m'exclus pas, et je me mets dans le lot... Je ne crois pas qu'on assume autant physiquement ce qu'on est ou ce qu'on est en train de devenir. On lutte contre nous-mêmes, alors que artistiquement, c'est une connerie. Et si moi, je me fais complètement refaire la gueule, je suis tentée. J'aime pas me voir me déglinguer. Je serais peut-être à un endroit tenté de le faire. Je n'aurai plus les rôles que j'ai. Je vais encore jouer des paysannes ou des prolos. Et avec certaines gueules, on ne peut plus aller dans les champs. Donc ce paradoxe-là chez l'actrice de nos jours m'intéresse et Signoret est le contrepoint de ça.
Claude Venturin, un commentaire par rapport à Signoret ou par rapport à ce que vient de dire
Non, mais je pense on faisait allusion au cinéma anglais. Et moi, il y a un truc que je trouve formidable dans le cinéma anglais ou dans les feuilletons anglais, c'est que les acteurs n'ont pas l'air d'être des acteurs.
Ouais.
Et c'est vraiment typiquement... on trouve ça dans les feuilletons ou les trucs anglais. Je ne sais pas, même quand on voit un film comme Get Carter avec Michael Caine, tous les gens qu'il y a autour et tout ça, on se dit, c'est pas possible, c'est pas des acteurs. Et les gens, on n'a pas l'impression qu'ils font attention à ce qu'ils sont, on n'a pas l'impression à ce qu'ils essayent, on n'a pas l'impression qu'ils essayent d'améliorer leur apparence. Et c'est très fort, ça, je trouve. Je sais pas si ça répond. Hein.
Ouais, Marina Foïs.
Je suis d'accord. Mais ouais.
Benoît Lagan.
C'est aussi peut-être parce que les cinéastes anglais viennent beaucoup du documentaire aussi à l'origine. C'est très lié. C'est.
Ah, je vois là.
Ah, il va y avoir une relation, bien sûr.
Oui. Non, non, mais c'est parce que... oui, peut-être. Oui, sûrement, oui.
Lucille.
Même Marina Foïs, dans un entretien, vous citez Michael Haneke comme étant un réalisateur avec qui vous aimeriez vraiment tourner. Quel regard vous avez sur son cinéma et surtout sur sa direction d'acteur qui est censée être extrêmement précise?
Ou alors, je le cite, c'est embarrassant de citer des metteurs en scène parce que en
fait... Ça en exclut d'autres, oui.
Non, mais non. En plus, j'ai cité Michael Haneke. En fait, la chance qu'on a en France, quand même, c'est la multitude de réalisateurs et de d'univers très différents. Le travail d'Haneke, il me provoque des émotions à un endroit que personne d'autre. Je sursaute quand je vois les films d'Haneke. Ça me bouscule à un endroit. J'ai des réactions physiques. Souvent, je peux pas, si je les ai pas vus au cinéma, je peux pas les regarder en entier. Voilà. Pour moi, le cinéma, c'est un endroit. J'aime bien, que ce soit pour rire ou pour pleurer, j'aime bien avoir des sensations très fortes. C'est un endroit de sensations. Et Haneke, il me modère pas du tout. Il me trimballe, j'aime ça. Et puis il y a une... comment dire? Oui, on a l'impression qu'il peut aller fouiller très très loin. Je ne sais pas comment dire. Funny Games, depuis que j'ai vu Funny Games, je ne vois plus une boîte d'œufs pareille. je ne sais pas comment il produit ça. D'ailleurs, Funny Games, je l'ai revu récemment, en fait, dans le cadre. Il ne se passe absolument rien. La terreur, elle est off. Mais il s'agit vraiment de terreur. Après, sur les acteurs, il est d'une précision. Et puis, c'est des images. En fait, le cinéma d'Haneke, moi, j'ai joué Maison de poupée, un enterre-amandier.
D'Ibsen.
Et un jour, Lars Noren, qui est un spécialiste d'Ibsen, était passé sur les répétitions. Et il avait dit, en parlant de Maison de poupée, le personnage de Nora, il avait dit « Je pense qu'elle a été incestée par son père ». Ce qui est une vision très radicale de la pièce. Mais toujours est-il que Nora dit, à plein de reprises dans la pièce, elle dit « J'étais une poupée pour mon père et mon père jouait avec moi comme il jouait avec une poupée ». J'ai joué cette pièce peut-être 150 fois. 150 fois, j'ai dit cette phrase. À chaque fois, j'ai eu l'image du ruban blanc, la petite fille sur le brancard, dans la tête. Je ne l'ai pas choisie, cette image. Elle m'est venue. Donc voilà, le cinéma d'Haneke, mais comme plein d'autres cinémas, parce que je suis très spectatrice, en plus d'être actrice. Voilà, j'aime ça. Donc voilà, ça me nourrit, ça m'habite.
Le rendez-vous, la chronique.
Marina Foïs et Michael Haneke et Claude Venturin, on va vous retrouver dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la chronique de Xavier Delaporte, Place de la Toile, politique au programme.
Bonsoir. Oui, je vais commencer par la publicité, parce que le rêve des publicitaires, vous le savez, c'est de savoir le plus précisément à qui ils s'adressent afin de cibler le mieux possible leurs annonces et de rentabiliser au maximum la dépense qui a consisté à acheter un espace. Alors c'est une problématique qui est vieille comme la publicité, et si encore aujourd'hui on peut voir sur certains murs d'immeubles de banlieue des réclames peintes vantant les mérites de tel ou tel alcool un peu désuet, c'est évidemment parce que d'abord, un, on ravale moins les immeubles de banlieue que ceux de Paris qui sont ils n'ont jamais été aussi blancs qu'ils le sont aujourd'hui, mais c'est surtout parce qu'on pensait que l'ouvrier, donc nécessairement alcoolique, serait plus sensible à la sollicitation d'ivresse. Le numérique et tous les outils qu'il propose, qu'on appelle par des mots barbares comme le tracking, le data mining, et qui consiste en gros à pister les comportements en ligne des internautes et les analyser avec des outils statistiques de haute volée, le numérique et les outils qu'il propose permettent un ciblage beaucoup moins amateur. Et il est intéressant d'aller voir ceux dont le métier est de fournir des données statistiques aux entreprises qui veulent investir dans la publicité. Et il est intéressant de voir ce qu'ils veulent savoir de nous et jusqu'où vont leurs études. Il y a quelques jours, une entreprise du nom de Quantcast, une entreprise américaine, a livré une étude toute bête. Il s'agissait de classer les usagers des principales plateformes numériques en fonction de leurs idées politiques. Un dispositif très simple, sur l'axe des abscisses, vous avez une droite qui va des démocrates aux républicains, c'est une étude américaine, hein. Et puis sur l'axe des ordonnées, vous avez un engagement moindre en bas et un engagement fort en haut. Alors qu'est-ce qu'on observait d'intéressant ? D'abord, les usagers des réseaux sociaux, Twitter, Google+, ou Instagram, là, pour les photos, sont plus démocrates que la moyenne de la population américaine. Mais ils ne sont pas vraiment engagés. Alors que les usagers, par exemple, de Yahoo ou de Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, sont plus républicains que la moyenne. C'est pas intéressant de constater que dans les pratiques numériques, celles qui sont sociales sont plus démocrates que les autres. Mais pourtant, elles ne sont pas très engagées. En fait, seuls les usagers de Twitter sont non seulement très démocrates, mais plus engagés politiquement que la moyenne de la population américaine. C'est pas inintéressant non plus, ça valide, disons, une intuition qu'on peut avoir. Mais l'enseignement le plus flagrant est autre. Et vous l'aurez deviné, parce que jusqu'ici, je n'ai pas parlé de Facebook. Et pourquoi je ne vous ai pas parlé de Facebook ? Parce que Facebook est au centre. Au centre, exactement. C'est-à-dire qu'exactement dans la moyenne de la population américaine. Pas plus à gauche, pas plus à droite, pas plus engagé, pas moins engagé. Ce qui confirme aussi une intuition qu'on peut avoir, Facebook n'est pas une communauté particulière. Facebook, c'est plus une communauté particulière. Facebook, c'est l'Amérique. En tout cas, l'Amérique de la norme. Alors, si on essaie d'élargir un peu la perspective, cette étude permet de convaincre ceux qui ont encore besoin d'être convaincus que les technologies et les services qu'elles proposent ne sont pas neutres. Qu'un service attire des gens engagés politiquement ou d'un bord opposé à une autre plateforme, c'est pas rien. Ça signifie qu'il y a quelque chose de politique dans cette technologie, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, touche à un aspect du politique. Mais alors, est-ce que ça signifie pour autant que les plateformes en elles-mêmes sont politiques ? Alors, prenons le cas de YouTube. D'après l'étude, l'usager moyen de YouTube, il n'est pas très engagé politiquement, mais il se considère comme nettement plus démocrate que la moyenne de la population américaine. Maintenant, je vais faire un exercice qui est un peu reluisant, qui est lister mes dernières recherches sur YouTube. Dernière vidéo que j'ai regardée. J'ai regardé une vidéo d'un anaconda géant filmé par une touriste brésilienne en Amazonie. Je l'ai regardé 3 fois. J'ai regardé des clips de propagande de l'État islamique autoproclamé, beaucoup. J'ai regardé des films amateurs de manifestations dans les rues de Hong Kong. J'ai regardé des vidéos de gens qui tombent par terre, parce que je suis triste. Et quand je suis triste, ça me fait beaucoup rire. J'ai regardé le dernier clip de Jennifer Lopez, 17 fois. J'ai
parce
regardé
que vous
des extraits. Comment ?
Parce que vous étiez triste aussi ?
Entre
parce
autres, Laurent. J'étais seul. Exactement.
Non, ça c'était l'anaconda.
Quel rapport au fait entre l'anaconda et Jennifer Lopez ? Des extraits de comédie musicale, hein, avec mes enfants, particulièrement l'extrait de The Band Wagon, où Chicharis danse avec Fred Astaire dans une robe pailletée rouge, qui est parfaite. Et j'ai regardé aussi un but de dingue qui était marqué au Brésil. Bon, la question est, qu'y a-t-il de démocrate là-dedans ? En quoi cette succession un peu absurde a-t-elle à voir avec le fait que, sur une ligne allant de démocrate à républicain, je me classerais plutôt du côté démocrate ? Sans doute rien. Et l'on peut avoir de YouTube un usage qui n'a pas grand-chose à voir avec les idées démocrates. Par exemple, c'est quand même cette plateforme qui accueille tous les conspirationnistes du monde entier. Ou alors peut-être que dans le fait même de laisser s'entrechoquer le meilleur et le pire, le haut et le bas, le profond et le superficiel, le nécessaire et le parfaitement futile, peut-être qu'il y a là quelque chose d'éminemment politique et peut-être même d'assez démocrate.
Je vous vois opiner du chef, Marie Lafosse.
Le nécessaire et le futile.
Ça nous ramène au début
de
l'émission. Un autre commentaire, Claude Venturin ? Vous êtes Facebook ?
Moi,
vous êtes Twitter ?
Non, je suis déconnecté. Rien du tout. Je suis une vraie buse en informatique. J'arrive à envoyer des mails et à lire mes mails et c'est tout.
C'est l'essentiel, c'est ça ne meurt pas le mail. Non, ça va.
Pardon ?
Ça ne meurt pas le mail.
Oui, je ne sais pas. Non, mais tous ces trucs-là, Facebook, tout ça, ça me fait très peur.
Et vous, Marina Foïs ?
Moi, je suis une planquée. Moi, j'ai un compte Twitter. Je ne tweete jamais, mais je lis et je m'éclate. Parce qu'il y a de tout, hein, vraiment. Mais voilà. Le problème, c'est que c'est un, c'est une version résumée de nous-mêmes, quoi. Donc avec, avec, comment dire, avec ce que ça comporte de pathétique. Y a, bon, c'est quand même rarement brillant. Enfin, ce que je suis. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Puis je crois que pour le coup, on est des vioques, quoi. C'est-à-dire que c'est un vrai moyen d'eux.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Et je profite de votre chronique, Xavier, pour signaler le forum L'année vue par le numérique qui se tiendra à Sciences Po samedi de 10h à 17h. L'entrée est libre et gratuite et vous pourrez réécouter les tables rondes à l'heure du grain à moudre d'Hervé Gardette. Tout de suite, on passe au plateau photo de classe avec vous, Claude Ventura, réalisateur, documentariste. Vous avez signé des films sur des figures de la musique, de Yehudi Menuhin à Serge Gainsbourg. On vous doit le magazine culte télévisé Cinéma. Et demain, France 3 va diffuser votre dernier commentaire, les documentaires. Ça va fort aujourd'hui. Un mot pour un autre, j'ai envie de dire un métaphore. Votre documentaire, Les Garçons de Rolin, un film dans lequel vous revenez sur les trajectoires de plusieurs lycéens parisiens pendant la guerre. Bande-annonce, elle est signée par notre réalisateur Thomas Beau.
C'était pendant l'hiver 1940. L'hiver de la manifestation du 11 novembre, des lycéens parisiens contre l'occupant. Dans la cour de Rolin, les tracts finissaient souvent en avions de papier. Et en plaçant mes pas dans les leurs, j'avais parfois l'impression de remonter le fil d'une histoire qui, à 15 ans près, aurait pu être la mienne.
Apprenez donc à travailler en commun, à prendre vos jeux en commun.
Combien d'entre eux ont écouté le message que le maréchal Pétain adressait à la jeunesse ce 24 décembre 1940 ?
Celui-là, il s'appelait Girard, et c'était vraiment un horrible pétainiste.
Lorche, celui-là était juif, mais ashkénaze. Il était brillant.
Des très jeunes gens, presque des enfants, certains déjà résistants et d'autres qui ont pris d'autres chemins. Toutes ces vies, trop courtes. Certains sont passés directement de la photo de classe à la photo anthropométrique. Jean Guay, résistant, fusillé à la cascade du Bois de Boulogne en 1944, alors que son ami Jacques Franz finit la guerre à Berlin sous l'uniforme de la Waffen-SS.
Le point de départ, hein, Claude Ventura, c'est un livre, La guerre des cancres, de Bertrand Matteau, qui avait été préfacé à l'époque par Patrick Modiano. Oui. Il retrace le parcours étonnant de groupes d'amis, des lycéens qui s'engageront dans la résistance, d'autres dans la milice, voire même sous l'uniforme de la Waffen-SS. Qu'est-ce qui vous a d'abord troublé à la lecture de ce livre ?
Les photos.
Les photos de classe.
Les photos de classe, parce que je trouve que c'est un truc formidable. Et puis, ce lycée, il est à côté de chez moi. Je vois ces murs, là. Et je trouve, quand on va à la recherche de fantômes, c'est important, le décor. Et puis, ce vertige qu'on a à se dire, qu'est-ce qu'on va filmer, quoi. Ils sont tous morts ou ils sont pas là, ou est-ce que c'est intéressant de les voir? Et par contre, c'est... Enfin, pour moi, c'est un film sur la jeunesse, quoi. C'était tous ces visages de jeunes gens. Et... peut-être parce que moi j'avance en âge, j'ai trouvé ça assez bouleversant. C'est pas un film d'historien, c'est pas un film de journaliste. Je porte aucun jugement. J'ai même j'ai été ému par tous ces, de quelque côté qu'ils aillent. Hein. Et puis il y a eu ce truc, ce bonheur de la recherche, des trucs tout bêtes, mais de mettre des noms. Par exemple, parce que les quelques photos de classe que j'avais, il n'y avait pas de nom derrière. Donc, je trouvais une photo avec un nom. Je me disais, ah ben, est-ce que c'est lui ? Donc, j'ai passé dans les fins combles du lycée beaucoup de temps à essayer, à me dire, c'est lui, c'est pas lui. Puis, quand je trouvais une nouvelle photo de classe, je me disais, ah, je ne l'ai pas, celle-là. J'avais l'impression que c'est, vous savez, comme dans les albums Panini. Je dis, tiens, merde, je n'avais pas la troisième B de 41. Donc j'ai fait ça comme ça, et puis ça a l'air tout bête comme travail, j'ai tout... Mais c'est en faisant ça mécaniquement un peu que je me suis immergé, parce que quand on filme des trucs comme ça, le gros truc c'est de s'immerger, quoi, d'aller pour trouver les fantômes, faut...
Et donc à partir de ces photos de classe, vous allez chercher plus loin, vous allez même rencontrer certaines personnes, des témoins, et notamment, on entendait dans la bande-annonce le nom de Jacques Franz, cet ancien de la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Vous avez rencontré un de ses fils, vous avez découvert du coup de nombreuses lettres et des archives qui témoignent de l'engagement de Jacques Franz au sein de la Waffen-SS. Comment son fils justement perçoit et analyse aujourd'hui la trajectoire de son père ? Quand vous le rencontrez, que vous regardez ça, les archives avec lui.
Ça, il faut lui demander. Il m'a confié. J'ai toujours. C'était un secret de famille. Et il avait fourni à Bertrand Matteau quelques lettres comme ça. Mais après, moi, je l'ai recontacté pour aller plus loin. Et en discutant, il me dit : mais tout ça, c'était dans une valise qui était au-dessus de l'armoire, qu'on n'ouvrait pas. Moi, dès qu'on me dit un truc comme ça, je pars. Donc, cette valise, il me l'a confiée. Et j'ai eu, en faisant le film, l'impression que lui avait fait une partie du travail pour digérer tout ça et qu'il me passait un peu le relais, quoi. Parce que peut-être, ça allait faire un peu mal. Mais vous savez, quand on filme les gens, quand on filme des gens morts ou vivants, on a une sorte d'empathie, quand même. Surtout quand c'est les beaux personnages, on se dit... Ah, chouette, ça va être bien dans le film. Et bon, il est dans la Waffen-SS, c'est super.
Alors justement, vous avez rencontré un de ses anciens camarades de classe, un proche de la JEC, ouais. Marc Adam. Et l'entretien est étonnant. Vous l'avez d'ailleurs placé au cœur même de votre film, entre la 40e et 45e minute. On en écoute un extrait.
Le titre, par exemple, c'est un peu dur, la défense de la race.
Ah ben, le terroir avait encore de l'importance à l'époque, hein. Moi, j'étais très fier d'être normand.
Le terroir.
Je suis toujours, d'ailleurs. J'ai cette vanité.
Pour le copain de Franz, la défense de la race, rien d'autre qu'une question de terroir.
Ah, Jacques, évidemment. Jacques, c'est une personnalité qui pèse assez lourd pour ceux qui l'ont connu. Pour moi, c'était un garçon important. Il s'est engagé pour la chrétienté, hein, dans sa carrière militaire allemande.
Dans la Waffen-SS.
Ah oui, le don de soi. Il avait un cœur d'apôtre, ce garçon. Absolument. C'était un garçon d'une qualité morale certaine, indiscutable. Qu'il soit allé se fourvoyer à ce moment-là, du côté du Reich, c'est dommage. Il aurait été plus utile en restant tranquille. Je ne le condamne pas. Je le comprends. Pour un peu, je l'aurais suivi.
Et vous, Claude Ventura, vous ne le condamnez pas ? Vous le comprenez ?
Je le comprends, non. Non, non, je le filme, je raconte une histoire. Ça me plaît bien, comme on lit, avec en plus l'émotion qui est liée au fait que ces gens ont existé. C'est pas. En même temps, je vois toujours le parfum de fiction qu'il y a dans. J'aime bien ça dans les documentaires, qu'il y a un peu de fiction, quoi, que ça soit pas juste ce que les gens disent, que ça soit. Donc, moi, ça m'a. C'était un garçon, c'était un beau personnage, quoi, ce Jacques Franz. Et bon, je sais pas s'il a... Mais il y a des trucs quand même, dans le film, le début, il y a une bagarre de boules de neige. Moi, qui vais beaucoup au cinéma, ça m'a fait penser au film de Cocteau. Après ça, il y a le côté signe de piste, vous savez, les romans scouts, tout ça, la mort d'Éric, le prince Éric, tout ça, là où tous les garçons sont beaux, grands, ont les yeux bleus. Comme moi, je ne ressemble pas à ça, ça m'a toujours un peu fasciné. Mais non, moi, j'ai tracé mon truc comme ça.
Marina Foïs, vous qui regardez beaucoup de documentaires, vous êtes sensible aussi à la part de fiction qu'il y a dans le documentaire, quand vous en regardez un ?
Quand il y en a ?
J'aurais pas dit cette phrase-là. Ouais. Parce qu'en vrai, quand je regarde un documentaire, moi, ce qui me trouble, c'est justement... ce qui me trouble, c'est d'avoir l'impression de vivre en même temps que celui qui vit le moment, une vérité, d'être dans sa chambre, quoi. Ou dans sa voiture, ou je ne sais pas.
Non, ce que je veux dire, c'est, je me suis mal exprimé, je ne parle pas des docu-fictions.
Ah non, mais je ne parle pas de la part de fiction qui peut y avoir. Non, on ne parle pas de tout ça.
Mais nous aussi, Claude.
Nous aussi, on ne parle pas du tout des docu-fictions.
Non, on ne parle pas des
docu-fictions. Alors, Claude Ventura, il y a toujours dans vos films un soin particulier à l'image, et ici, il y a une magnifique...
C'est la moindre des
choses. Voilà, ce n'est pas toujours le cas à la télévision. Vous, au moins, c'est toujours parfait, et il y a un jeu d'ombre et de lumière très particulier dans ce film. Comment vous avez justement pensé la photographie de ce film?
Ah, je ne l'ai pas pensé, je l'ai faite. Je n'ai pas éclairé, je ne sais pas éclairer. Vous savez, je sais juste me mettre là où la lumière est belle.
Les gros
j'aime
plans
pas
sur les archives.
Parce que la télé, c'est toujours la lumière à giorno. Il faut que tout soit bien éclairé, qu'on montre tout et tout ça. Je déteste ça. Et donc, j'essaie toujours qu'il y ait des zones d'ombre dans l'image. Et je me souviens, il y a très longtemps... On mesurait l'image, les techniciens mesuraient l'image. Il fallait que l'image soit au volt. Ça a l'air tout bête, mais il faut que l'image soit au volt. Donc, si vous avez un mec qui marche dans un couloir, juste qui se découpe en silhouette et que tout est noir autour, au volt, automatiquement, ça grise toute l'image. Voilà. Donc ça, Dieu merci, on n'en est plus là. Mais enfin, moi, j'ai vécu ça.
Alors, puisque l'on parle d'image, eh bien, on va parler son tout de suite. Voilà ce que vous avez apporté. Sweet mama, I'm waiting for my man.
Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy. Identification de ce son qui a une histoire, Claude Ventura.
Oui, c'est un enregistrement d'une émission que je faisais qui s'appelait Pop 2. Et c'était les retrouvailles Nico, Lou Reed et John Cale au Bataclan en janvier 72. Donc, c'était nous qui organisions les concerts. Donc, c'était un moment historique. Et après, en fait, le truc, c'est qu'on entend un type chanter, là, sur le document. Je l'ai amené parce que c'est Lou Reed, mais la guitare qu'on entend, c'est la mienne. Donc, je trouvais que c'était un truc perso.
Donc, c'est un peu vous qu'on entend.
C'est un truc un peu perso. Non, parce qu'ils venaient de Londres. John Cale avait un pullover qui avait l'air tricoté par sa mère. Lou Reed lui avait une veste en tweed. Enfin, il n'y avait rien d'apparence de rock and roll. Et il n'avait pas de guitare. Donc j'ai amené ma Martin D28 et voilà, que je n'ai plus. Mais voilà, je peux dire que... Donc je pensais que ça répondait...
Ah, mais ça répond parfaitement au cahier des charges. Vous-même, donc, étiez musicien. Quel répertoire ? Vous jouiez quoi ?
Moi ?
Oui, mais si vous aviez une guitare, il fallait bien en jouer.
Ah non, j'aime mieux qu'on ne parle pas de ça.
C'est-à-dire, c'est comme le coup des armoires. Si on me dit ça...
Non. J'aimais bien faire de la musique, mais... quand j'étais étudiant, je jouais du côté de la Contrescarpe dans un trio de jazz, voilà, de la guitare électrique. C'est à l'époque, le fait d'avoir un ampli à côté de la guitare, ça, c'était un truc rare et c'était le top du top, quoi.
Dernière question, Benoît.
Oui, moi j'aimerais revenir juste sur le traitement de l'archive dans votre documentaire, parce que beaucoup de documentaires historiques remettent en scène l'archive en la sonorisant, en la colorisant. Là, vous vous faites le choix de positionner votre caméra en lieu et place de l'œil de l'archiviste ou du documentaliste. Cette caméra qui regarde l'archive, c'est un choix militant ? Vous faites barre quand on parle de colorisation.
Ah, militant, non. Non, ah, oui, je déteste la colorisation, mais... Non, c'est juste que... Je me suis dit, pour pas que ce film soit chiant, il faut que je découvre les trucs au fur et à mesure et que j'ai un micro d'ouvert et que je commente. Et c'est ça qui donne cette impression de... Il y a ça, et puis le fait que, en fait, j'ai joué sur deux... Je filmais les trucs, les objets, les papiers, les photos, comme ça, en direct, quand je les découvrais. Mais après, quand je revenais dessus, c'était à travers un ordinateur. Et du coup, il y avait le niveau de la réflexion après. Ça me permettait de mettre les points, de revenir sur certaines choses et tout. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'au départ, c'était angoissant ce genre de film. Parce que ce qu'on dit, Moi, je ne sais pas trop au départ ce que je veux faire. Je sais ce que je ne veux pas faire. Je sais ce que je n'aime pas et je sais ce que je ne veux pas faire. Et du coup, ça dégage un chemin qui est...
Qu'est-ce que vous n'aimez pas, Claude Ventura ?
Oh ben je ne sais pas, je n'aime pas les documentaires où ce qui compte, c'est ce que les gens disent. On ne sait pas si à quelle heure c'est, on ne sait pas s'il pleut dehors, on ne sait pas... Les gens reviennent, sont saucissonnés, ils reviennent quatre fois. Alors que moi, je trouve que si on enquête et tout, on va voir quelqu'un, puis après, on va voir un autre. S'il faut, on le rappelle au téléphone, le premier. Enfin, c'est ça que j'appelle un peu une façon de raconter une histoire et qu'il y a un peu de chair, quoi, autre chose que les hommes troncs qui
témoignent.
Oui, il n'y a pas beaucoup de trucs qui me plaisent. Même les miens, j'aime pas toujours trop. Pas tout dire et pas tout montrer.
Voilà. Le problème, c'est que c'est une version résumée de nous-mêmes, quoi. Huilé, doré, musclé, avec des tout petits slips.
Merci à nos invités. Marina Foïs, bodybuilder, vous avez l'air stupéfaite, hein, est sortie en salle depuis hier. Et Claude Ventura, Les Garçons de Rolin, sera diffusé demain sur France 3. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais justement, demain.
Un couple vit nu dans le bonheur, sans mourir, à condition de ne pas manger du fruit d'un arbre qui est celui de la connaissance du bien et du mal.
Demain, ce sera le paradis avec le cinéaste Alain Cavalier et l'écrivaine Annie Ernaux. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagan, Adrien Azeli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture Zoé Sfès, chronique Xavier Delaporte, à la technique Tristan Gratalon et Anthony Thomasson et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
C'est un style, Marina Foïs, je vous voyais.
Oui, je...
C'est un style, il est revendiqué.
Mais absolument.
On ne lui permet pas de faire autre chose.
C'est ça. Vous êtes le patron.
19h54 minutes, vous écoutez France Culture. Ben, c'est bien.